السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ خير، chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous réunit ce soir dans cette masjid pour un grand moment, pour célébrer un nikah qui est un moment de bonheur, un moment de joie et un moment de foi, de iman. C'est un instant d'union entre deux personnes qui s'aiment et qui vont maintenant devoir apprendre à s'aimer vraiment à long terme. C'est un instant de rapprochement entre les enfants et les parents avant tout. Car c'est un moment d'émotion important pour un papa que de marier son fils. Un moment d'émotion important pour un papa aussi de marier sa fille. Un moment de rapprochement également au sein des familles respectives. Car dans les moments de vie importants, comme le nikah, parfois des moments un petit peu moins joyeux, comme un mayet, on retrouve un petit peu les relations, on retrouve un peu ce qui fait l'union, ce qui fait la présence vraiment du noyau familial, la sincérité du muhabba, de l'entente, des liens de sang au sein d'une famille. Et ce soir, c'est pour un, mashallah, un événement qui remplit les cœurs de joie, que, inshallah, les familles vont retrouver ce muhabba, ils vont faire renaître l'amitié qui existe au sein des cœurs. Et c'est tout ça, nikah, mes chers frères et sœurs. C'est tout ça, et c'est bien plus encore. Tout est concentré autour des sentiments. Du côté des jeunes mariés et de leurs parents. Des deux côtés, il y a différents types de sentiments, pas toujours les mêmes. L'amour entre les conjoints, ça c'est un sentiment omniprésent, mais de l'autre côté, d'un sens, la tristesse parfois de devoir quitter le domicile familial. La tristesse, j'allais dire l'amertume de la part des parents parfois de voir son enfant aller, son enfant prendre son envol, mais en même temps la fierté de voir son fils ou sa fille s'épanouir, la joie de les voir heureux, et des deux côtés, du côté des enfants, du côté des parents, l'espoir d'un amour sincère. Les parents, de leur côté, subhanallah, ils revoient l'enfance de leur fils ou de leur fille, le parcours jusqu'à cette masjid, auprès de ce banc de nikah, pour faire le mariage. Les parents, lorsqu'ils voient le mariage de leurs enfants, ils voient le passé. Ils pensent l'enfant, la naissance, les différentes étapes de la vie, comment, mashallah, on les a fait grandir, jusqu'à ce que, subhanallah, à cet âge, il vient, il va se marier. Du côté des enfants, ils ne pensent plus au passé. Leur regard est plutôt porté sur l'avenir, leur projet, ce qu'ils vont faire, en faisant un petit peu table rase de tout ce qui est avant le mariage. Mais c'est ça la vie. Ça, c'est un cycle de la vie et c'est la sunnah d'Allah de la création. Ça peut paraître parfois un petit peu cru en termes de sentiments, en termes de reconnaissance, mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Des sentiments omniprésents, mais tâchons, mes chers frères et sœurs, en plus d'avoir des sentiments dans ce nikah, d'y apporter le quota de iman, le quota de spiritualité nécessaire pour élever le niveau du nikah. Notre attention, mes chers frères et sœurs, autour des mariés, très souvent, se limite à la durée de l'événement. On pourrait même dire à l'événementiel. Quand on parle de mariage, et notre relation avec les jeunes mariés, c'est par rapport à la demande en mariage, les préparatifs, le nikah en lui-même, le valiement qui va être fait après, les cadeaux que les mariés reçoivent. Ensuite, après ces différents événements, le couple retourne presque à l'anonymat, en guillemets, un certain anonymat pour une vie qu'on va dire normale, une vie de tous les jours. Et là, on va les lâcher. C'est quand il y a le soir du nikah que tout le monde va faire mulaqat, Mohammed, félicitations et tout, mais deux jours, trois jours, une semaine, dix jours après, il n'y a plus personne qui va le voir pour le féliciter de nouveau. C'est-à-dire notre attention envers les conjoints, c'est surtout par rapport aux événements. Mais nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est justement cette période de retour, ce qu'on avait dit, à une vie normale. Parce que ce retour à une vie, c'est tout ce qu'on veut, sauf normal. C'est deux personnes de famille différentes, parfois de cultures différentes, souvent d'éducation différentes, qui se retrouvent ensemble, unis pour la vie, du jour au lendemain, sous un même toit. Et ça, c'est un bouleversement de la vie. C'est pas quelque chose d'anodin, ça, du jour au lendemain, se retrouver avec quelqu'un et démarrer une nouvelle vie avec une personne à ses côtés en permanence, c'est un bouleversement de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie de la vie de couple. C'est le but du mariage et c'est ça qu'on travaille au quotidien. Et pour bien travailler la vie du mariage, il faut démarrer avec de bonnes bases. Chers frères et sœurs, le mariage, le nikah, la vie de couple doit être un véritable projet de vie. C'est pas quelque chose qu'on attend et qu'on va vivre au jour le jour. On n'improvise pas la vie de couple. C'est un projet de vie. Et sur différents plans. Sur la vie, le plan, on va dire sentimental, bien sûr, le plan professionnel. C'est également la gestion du budget. Ça aussi, ça fait partie du plan de vie. Mais surtout et avant tout, le projet de vie spirituel. La manière qu'on va gérer notre iman, notre relation avec Allah, et ça, mes chers frères et sœurs, c'est essentiel. Le nikah est une sunnah. Ça, tout le monde le sait. Et donc, c'est déjà un projet spirituel. La dimension de spiritualité, de iman, est déjà au centre du nikah. C'est une preuve de iman parce que quand on fait le nikah, déjà, dans un premier temps, on respecte la loi d'Allah, l'union d'un homme et d'une femme. Et c'est comme ça qu'Allah a créé la race humaine. On respecte les lois d'Allah parce qu'on va s'unir dans le halal. Ce ne sera pas une relation de concubinage. Et très souvent, petite parenthèse, quand des personnes fréquentent un conjoint ou une conjointe en dehors du cadre du mariage, la personne a l'impression d'être libre. Une relation libre de tout engagement, parce qu'il n'y a pas le lien du nikah. Mais en fait, la personne, elle a l'impression d'être libre, mais la personne est sous l'esclavage de Shaytan. La personne est soumise aux lois de son nafs, aux lois de son ego, de ses passions, de ses pulsions, qui l'emprisonnent, qui l'empêchent de connaître l'émancipation spirituelle, cette véritable liberté qui passe par les liens du nikah. Donc quand des personnes se disent libres parce que je fréquente un tel ou une telle personne sans qu'il y ait de mariage, sans qu'il y ait d'engagement, en fait la personne est tout sauf libre. Elle est sous l'emprise du diable, du shaitan, et la personne est prisonnière de son nafs. Mais chers frères, pour revenir au nikah, c'est le iman. Le nikah, c'est du iman parce que le fait même de se détourner d'un plaisir charnel uniquement pour Allah, c'est une preuve de présence de iman. Et on ne citera que le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé que parmi les 7 catégories de personnes, hadith connu de tout le monde, qui auront l'honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyama, le prophète alayhi salatu wassalam a cité Rajulun da'athum ra'atun dhat mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Un jeune homme qui reçoit les avances d'une jeune femme, une jolie femme d'un haut rang de la société, mais la seule chose qui fait que cette personne ne succombe pas à cette tentation, à ses envies, c'est il dit « Inni akhafu Allah », c'est que j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur. On n'ira pas dans les commentaires des hadiths, mais les savants disent que ce n'est pas la beauté de la femme qui est un obstacle, ce n'est pas qu'il a refusé parce qu'il ne la trouve pas assez jolie, ou alors trop âgée, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas digne de lui. Là, Allah, toutes les conditions sont réunies, mais la seule chose qui fait que la personne n'accepte pas le haram, c'est parce que justement dans ce cœur, il y a la foi, il y a iman qui brille, qui fait que on ne met pas un pied dans ce qui est illicite. Ça c'est preuve de iman. Et Allah est tellement satisfait de ce jeune qui refuse le haram par amour et par crainte d'Allah, qu'Allah lui réserve une place sous l'ombre de son trône le jour du Qiyam. Et ça, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas une récompense banale. Ça, c'est quelque chose réservé à très peu de gens. Celui qui peut l'obtenir, c'est l'homme le plus heureux au monde, dans les deux mondes, et surtout dans l'autre monde, sans rentrer dans les commentaires de hadith. Mais les muhadithines disent que celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, dans les premières étapes de l'au-delà, c'est une personne qui sera tranquille pour toutes les autres étapes de l'au-delà. Parce que si dès le début, Allah Azza wa Jal nous a accordé sa protection, ça veut dire que pour les étapes qui vont s'enchaîner, la balance, la remise, délivrée, le sirat, ce sont des étapes où on aura également la protection d'Allah et donc une garantie d'accéder au paradis. Et pour quelle action ? L'action qui est mise en valeur, c'est que ce jeune, il n'a pas fait une bonne action extraordinaire. C'est pas qu'on a dit c'est un jeune qui va s'enfermer dans la masjid et passer des nuits en adoration. Là, wallah, c'est un jeune, mashallah, qui vit, qui est impliqué dans la vie active de la société. Mais lorsqu'il y a le haram, ce jeune dit non. Parce que j'ai iman, j'ai la ilaha illallah dans mon cœur. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est un combat de tous les jours. On pourrait citer également le plus bel exemple de ce jeune qui a refusé le haram comme on l'a décrit, c'est Youssouf alayhi salam. Et l'histoire de Youssouf alayhi salam est connue de tous lorsqu'il reçoit les avances de la femme de l'émir. Alors c'est une jeune et belle femme de haut rang, mashallah. Elle est responsable du palais avec son mari, mais il refuse par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent que, oh, ça c'est un discours adressé aux jeunes, que vous êtes tous des Youssouf alayhi salam. Parce qu'à l'époque où on vit, où il y a tellement de tentations, il y a tellement d'appels vers le zina, vers l'adultère, il y a tellement d'appels vers la trahison dans les liens de couple, et ce fitna à notre époque n'est plus réservé aux célibataires. C'est pas uniquement quand j'ai 17, 18, 19 ans qu'on reçoit des avances ou qu'on est peut-être tenté vers l'adultère ou autre chose, c'est même quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Malheureusement, ce péché est omniprésent, comme le prophète alayhi salat wa salam l'avait annoncé parmi les petits signes de la fin des temps. Donc celui qui sera à chaque moment, à chaque fois où il y a la possibilité, où il y a la tentation, il sera à dire non par amour et par crainte d'Allah, c'est une personne qui a beaucoup d'espoir, incha'Allah, d'être abrité par Allah le jour du Qiyam. Hada. Et pour revenir à l'union de Mohammed et de Zeba, l'union de ce jeune couple, et c'est valable pour tous les jeunes mariés, on va dire que ce sont deux forces vives qui vont partager, comme on l'avait dit tout à l'heure, un même toit, qui vont s'unir pour la vie, pour mener à bien des projets communs, pour réaliser des rêves, pour concrétiser des objectifs communs, atteindre un idéal. Et tout ça, c'est autour d'un projet de vie qui ne s'improvise pas. Le projet de vie du mu'min, le projet de vie du musulman lorsqu'il se marie, doit inclure, certes, des objectifs mondains. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que ce qui fait le côté rationnel de notre dîn, de notre religion, de l'islam, c'est qu'en même temps, on mène une vie spirituelle. Mais il est tout à fait cohérent d'avoir une vie totalement intégrée au sein de la société. Donc, avoir des projets mondains, comme par exemple, devenir propriétaire, acheter une maison, un appartement à long terme, acheter un véhicule, ouvrir, je ne sais pas, son entreprise. Tout ça, ce sont des faits tout à fait licites qui peuvent faire partie des projets de vie du couple. Mais ça ne doit surtout pas se limiter à ce genre de projet professionnel ou mondain. Parce que là, ce serait une erreur de projet et une erreur de parcours. Le projet de vie du croyant, du jeune homme musulman, de la jeune femme musulmane, doit être aussi spirituel. Et c'est vraiment là le point le plus important, faire l'intention, par le biais du mariage, de se renforcer mutuellement dans la pratique du dîn, de la religion, et avancer ensemble vers Allah pour obtenir son contentement. Maintenant, on peut se demander, il y a des gens qui ont de bonnes intentions, comment orienter ce projet de vie spirituelle ? Des gens qui se disent, ben, on fait déjà namaz, on fait déjà la salah, d'accord, on est déjà pratiquant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble, conjointement, quand on est marié, pour travailler et augmenter son iman tous les jours dans la vie de couple? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Alors on vous propose un tableau, ça prendra 5 minutes, je sais que la salat Isha est très tard, donc il ne faut pas faire des longs discours. Très concrètement, une proposition de projet de vie spirituelle d'un jeune couple, qui peut être un couple déjà marié depuis plusieurs années, mais qui peuvent l'appliquer, le mettre en pratique. Et on l'a dit, c'est un projet cohérent. C'est pas des choses inaccessibles. On parle pas de l'histoire d'hommes pieux, comme on dit ici, de bouzlouk, des gens qui ont fait telle chose. C'est pas des choses qui sont inaccessibles. Non, des actions qui sont réalisables, qui sont applicables dans une vie de couple moderne, surtout dans la société où on vit. Alors on va distinguer deux catégories concernant les ibad, un projet de vie tout d'abord concernant les actes d'adoration. Il y a différents points, et puis chacun il se dit que ben ça je peux l'appliquer, ça je peux commencer à mettre en pratique dès maintenant ou dans quelques temps. Mais le plus important, c'est d'avoir le projet, et on verra dans un instant pourquoi avoir le projet. Premièrement, l'intention ferme, tant du côté du mari que de la femme, d'être régulier dans les 5 salats. Première chose, quand on se marie, on s'engage mutuellement que la priorité, c'est nos 5 salats. Jamais rater une salat, sachant que le prophète alayhi salat wa salam nous a annoncé que awwalu ma tus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati 'an 'amalihi as-salat. La première chose qu'Allah azza wa jall nous demandera le jour du qiyama, ce sont les prières. Est-ce que les 5 prières quotidiennes ont été accomplies justement de façon quotidienne? S'il y a une salat qui manque, et là on ne parle pas de namaz qaza, un namaz qaza, c'est un namaz raté. Ce n'est plus un namaz ada. S'il y a une prière qui manque, ce sont des problèmes qui vont s'accumuler d'étape en étape. Parce que la sunna d'Allah, dans l'au-delà, c'est que si tout se démarre, si tout démarre correctement, le reste, l'enchaînement des événements se passera de la meilleure des façons, comme on a vu tout à l'heure pour ceux qui seront selon du train d'Allah. Le hadith dit, si dès le départ la salah est ok, la personne, alhamdoulilah, a accompli ses prières, les autres étapes vont être faciles. Et le hadith, hein, il termine en disant que si dès le départ il y a des manquements dans les salah, les autres étapes vont être encore plus difficiles, encore plus compliquées pour cette personne. Donc, la priorité, c'est être ferme dans les salah. Et ça, ça démarre, Mohamed, dès la première nuit du mariage, dès la nuit de noces. On peut festoyer, on peut, mashallah, s'aimer, ça c'est tout à fait normal, mais avec l'intention ferme que de toute façon, demain, on fait Salatul Fajr. Allez, même si c'est pas de la masjid, mais on le fait ada, à l'heure. Même s'il faut prendre un roussal avant, sachant qu'un roussal est suffisant pour, même si on est impératif, mais l'intention ferme de faire la Salatul Fajr, et ça, ça démarre dès la première nuit du mariage. Et ça doit s'enchaîner, ce niyat, même pendant le voyage de noces, ce qu'on appelle voyage de noces. Il ne faut surtout pas laisser Shaitan nous induire en erreur. Parce que Shaitan veille, il sait que le nikah c'est la moitié de la foi. Mais il va essayer de s'infiltrer. Il va essayer de nous persuader que là on vit un moment exceptionnel. Un moment extraordinaire. Donc là on peut lever le pied sur la salat, sur le namaz et rattraper ensuite. Si on a laissé une brèche pour Shaitan dès les premiers jours du mariage, il va s'engouffrer et il va s'installer jusqu'à ce que la tumeur shaitan, a'oudhou billah, se généralise. Donc dès les premiers moments du mariage, être ferme, l'intention, le niya, de ne jamais rater une salah. Ça c'est le premier point. Et ensuite, après avoir fait le niya, l'effort mutuel. L'effort mutuel, dans les deux sens, ça veut dire que le mari va veiller à ce que son épouse n'oublie jamais une prière. Que jamais l'heure d'une salah passe et que la femme, par inadvertance ou autre, a oublié. Parce que c'est une catastrophe dans une famille, dans un couple, si l'épouse ne rate ne serait-ce qu'une salah. C'est pire que si le manger l'a brûlé, que s'il oublie cuisiner ou autre chose. Si la femme rate une salah, c'est une catastrophe, c'est une perte à gagner en termes de baraka, en termes de bénédiction pour toute la famille. Il y a une répercussion sur l'ensemble de la famille. Et de l'autre côté, parce qu'on a dit que c'était mutuel, faire en sorte, l'épouse doit faire en sorte de veiller à ce que son mari ne rate aucune salah et l'encourager, quitte à le forcer, d'aller à la salah, à la masjid. Même s'il faut le prendre en otage par le biais des repas, faire en sorte que le mari, à l'heure de la salah, il vient à la masjid. Et ça, ce sera de la responsabilité de la femme. Pourquoi ? Sachant que l'homme, lorsqu'il fait sa salah ici, il y a 25 à 27 fois plus de récompenses. Et pourquoi est-ce que la femme, elle est avant tout gagnante ? Parce que l'objectif final, ce qu'on rappelle dans tous les discours de mariage, l'objectif ultime, c'est que le couple, un jour, se retrouve au Jannah. L'objectif ultime, le verset qu'on cite à chaque fois, Jannah tu adni yatrulunaha, c'est que le couple un jour se retrouve dans le Jannah. Et pour qu'ils aient plus de chances de se retrouver un jour dans le Jannah, il faut qu'ils cumulent le maximum de hasanat, de bonnes œuvres, de bonnes actions. Et la salah, c'est la meilleure des façons pour se rapprocher du Jannah. Maintenant, si on pose une question, je ne sais pas si quelqu'un maîtrise un petit peu les règles de notariat, un livret de compte, le hissab, le livret de compte, est-ce que c'est sous quel régime ? Est-ce que c'est sous communauté de biens ou séparation de biens ? Le hissab, lorsque les anges écrivent les actions, est-ce que c'est communauté de biens ou séparation de biens ? Bien sûr que c'est séparation de biens. Bien que le jour de Qiyama, l'homme a son livret de compte, la femme a son livret de compte, et personne n'est prêt à aider son prochain. Mais tous rêvent d'être ensemble dans le Jannah, et la construction de ce Jannah, ça se fait dès maintenant par le biais des actions qu'on va faire, par le biais des décisions qu'on va prendre, la manière dont on va donner l'orientation à notre vie. On continue à long terme. C'est pas des choses qu'on peut faire tout de suite, ça. C'est presque inhumain. À long terme, quand la pratique des cinq salats est devenue quelque chose d'acquis, faire le niya par la suite, même une fois par semaine. C'est pas une sunna que j'explique là. C'est une méthode. Même une fois par semaine, on va dire le vendredi, que l'homme et la femme prennent la décision ensemble, que tous les vendredis, dans un premier temps, on fait tahajjud. Et le prophète alayhi salat wa sallam citait comment Allah azza wa jal est content de voir la femme qui réveille son mari ou le mari réveiller sa femme pour faire le tahajjud. Même si on ne deviendra pas des hommes pieux dès le départ en faisant tous les jours, mais au moins une fois par semaine, on se dit que ben voilà, demain c'est vendredi, on fait le niya de se réveiller ensemble pour faire le qiyamul layl, le tahajjud. Ça, c'est un projet de vie spirituelle extrêmement intéressant qui apportera énormément de bénédictions, de baraka dans le couple et qui va rejaillir au sein de la famille, qui apportera baraka même sur le plan financier, sur le plan dunyawi. On continue. Autre projet de vie possible à développer, on fait le niya, l'homme et la femme, que, inshallah, à partir de maintenant, le lundi et le jeudi, on jeûne, sachant que c'est une sunna. Ou alors, si on ne peut pas tous les lundis et le jeudi, ben le 13, 14, 15 du mois, les trois jours où il est sunna de jeûner, on fait le sawm. Madame sera contente, on ne ira pas cuisiner à midi. C'est quelque chose qui nous apportera énormément en termes de spiritualité. On ne développe pas parce qu'on a dit qu'on va être un peu plus concis. Autre projet de vie l'avant-dernier, sur le Coran, apprendre le Coran ensemble. Et c'est la grande question. C'est quoi apprendre le Coran? On a écouté la lecture magnifique de notre jeune Hafid Yassine, jeune marié aussi, combien de temps? 2 ans? 1 an? Jeune marié, Hafid le Coran. Apprendre le Coran, est-ce qu'il y a une limite pour apprendre le Coran? Est-ce qu'à partir du moment où je lis couramment, ou que je mémorise l'intégralité du Coran, je peux dire que khalas, ta'allamtu, j'ai appris le Coran? La wallah. L'apprentissage du Coran pour le croyant ne s'arrête jamais. Et bien malheureux, bien inconscient, cette personne qui va être persuadée que maintenant que je lis le Coran, ma relation avec le Coran, elle est parfaite, elle est complète. Même si j'ai une lecture magnifique avec makharij al-huruf, une prononciation correcte, le croyant ne doit jamais s'arrêter d'apprendre le Coran. Quand on lit correctement, on apprend peu à peu quelques versets, le sens, la traduction, les commentaires pour le mettre en pratique. Quel moment de baraka de cette maison où, une fois par semaine, pendant 30 minutes ou 40 minutes, une heure, l'homme et la femme s'assoient ensemble, soit autour d'un kitab ou autour de l'écran internet et sur un site, d'accord, où ils vont apprendre quelques versets et le tafsir, le commentaire. C'est quelque chose qui va renforcer iman, qui va leur donner tawfiq de mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre et ce sera source de baraka dans leur couple. Et enfin, un temps dans le projet de vie, un temps, on pourrait dire tous les jours dans la mesure du possible, pour le dhikrullah. Même si c'est 10 minutes par jour, l'homme et la femme se disent que voilà, entre 19h20 et 19h30, c'est pas une sunna là, là c'est vraiment une organisation, un timetable, comme on dit, un planning. Entre 19h20 et 19h30, chacun s'assoit de son côté et il fait les tasbihats. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, salatu ala nabi, Allahumma salli ala nabina Muhammad. Et ça, ce sera un enrichissement spirituel. Est-ce qu'on y pense à tout ça? Il y a des fois, on se dit que pour réussir, pour avoir une vie épanouie, il suffit d'avoir le matériel. D'accord? Il suffit que, mashallah, on a une maison, on a une cuisine américaine, comme on dit, une cuisine équipée, on a des meubles de qualité, on va acheter un matelas à teint pur qui ne coûte pas combien et on sera confortablement installé, on aura une machine espresso, on aura tout ça et c'est les recettes du bonheur avec ça, on sera épanoui. Il y a des fois où on se dit également que non, pour avoir un couple épanoui, il faut un bon akhlaq. Tout ça c'est vrai. Il faut un bon comportement, il faut être bien éduqué, il faut respecter son conjoint. C'est ce sur lequel on insiste dans différents discours. Il y a des gens qui se disent que non, pour avoir une vie épanouie, pour être heureux, il faut qu'il y ait le dialogue au sein du couple, que l'homme et la femme communiquent. Ces trois recettes du bonheur font partie des recettes du bonheur, mais ce ne sont pas là les recettes du bonheur. Tant qu'il n'y a pas la pratique du dîn, il n'y a pas l'élévation spirituelle, il n'y a pas une relation permanente avec Allah, jamais, le couple trouvera la tranquillité. N'avez-vous pas vu ces personnes de famille aisée, de bonne famille, bien éduquées, qui communiquent, qui dialoguent, mais qui malgré ça, Allah musta'an, malheureusement, les années ne passent pas, ne s'enchaînent pas, et le couple doit se séparer. Alors que les conditions du bonheur, sur le plan matériel, sont réunies, les conditions, on va dire, d'éducation sont réunies, mais l'absence de dîn, de pratique de la religion, fait qu'il n'y a pas de baraka. Ou alors, même si le couple continue à vivre ensemble, il n'y a plus d'étincelle d'amour. Il n'y a plus de muhabba, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a pas de iman, et donc, il n'y a pas de baraka, de bénédiction d'Allah au sein du couple. Et enfin, en termes de projet de vie, maintenant dans les relations avec les autres, et ça c'est essentiel, faire l'intention avec madame que ben voilà, on va rendre visite régulièrement aux parents, des deux côtés. au moins deux fois par semaine, tant du côté du garçon que du côté de la fille. En aucun cas, excusez-moi, on prendra une minute de plus, mais ça c'est tellement important. Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le sens de hadith, différents hadiths qui vont dans ce sens, que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit que le droit d'un papa pour son fils est accepté par Allah. Allahu Akbar. Fursa, comme on dit, une possibilité d'obtenir les plus hauts rangs par le biais du doua des invocations d'un père pour son fils. Pour comment passer à côté? Donc, sachant qu'est-ce qu'on peut obtenir de la part d'Allah, par le biais de ihsan, dir al-walidain, faire l'intention que de régulièrement rendre visite aux parents. Et jamais se dire que quand on se marie, ben khalas, c'est une nouvelle vie qui commence. Cette nouvelle vie doit être construite sur l'ancienne vie qui est le socle, la base et la reconnaissance, c'est de garder ce muhabba avec les parents. On continue. Si les parents sont âgés, ça c'est la plus grande chance qu'Allah nous accorde. De pouvoir faire le khidma des parents quand ils sont âgés, c'est une porte du paradis grande ouverte. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait eu des mots très durs contre ce jeune qui a la possibilité d'avoir un de ses deux parents âgés, mais qui n'obtient pas le Jannah par le biais de la bienfaisance envers ses parents. Tout ça, ce sont des projets de vie, maintenant dans les relations avec les autres. Projets de vie concernant la famille. Faire l'intention, ne serait-ce une fois par semaine, on va dire le samedi ou alors un jour on est libre, de rendre visite à un membre de la famille. Ça, c'est essentiel et ce sont des choses qu'on perd. Dans la société, avec les valeurs qui sont véhiculées, c'est fini ça. Aujourd'hui, rendre visite ce samedi à ce tonton, la semaine d'ensuite à tel kala, la semaine d'ensuite à tel membre de la famille. C'est ce qu'on appelle en arabe « silatul rahim ». Garder les liens familiales. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est essentiel. Autre projet de vie commun, ihsan, sur le plan spiritualité, faire preuve de bienfaisance envers les voisins maintenant. Avec proposition, faire l'intention qu'une fois par semaine, on cuisine et on envoie un plat pour tel voisin. La semaine d'ensuite, pour l'autre voisin. Surtout qu'on habite au centre-ville avec des immeubles, subhanallah, il y a des voisins et des voisines. Ça, c'est essentiel également dans les relations avec les gens. Ça fait partie des recettes du bonheur, des recettes pour accéder au paradis, que d'être bienfaisant envers ses voisins. Et complété, on termine par Ita'am ou Ta'am. Lorsque le prophète sallam est arrivé à Madina, lorsqu'il a donné les premiers conseils aux musulmans pour accéder au paradis, bisalam, avec tranquillité, le prophète alayhi salat wa salam avait dit, donnez à manger aux gens. Et ça, c'est quelque chose de facile, d'accessible. On se fixe un repas par semaine qu'on prépare, qu'on va donner à un pauvre. Que le pauvre, musulman ou non musulman, il n'y a pas de différence. Un repas par semaine, et quand on dit un repas, c'est le repas qu'on cuisine. Ce n'est pas le repas qui reste. On prend une portion, on prépare, on va donner à quelqu'un qui est en difficulté. Mes chers frères et sœurs, subhanallah, si on peut essayer d'appliquer, ça fait beaucoup de choses, on ne peut pas tout mettre en pratique du jour au lendemain, bien sûr, mais si au fur et à mesure, on a l'intention déjà d'appliquer ces différents points de notre vie de couple, vous allez voir la baraka, la bénédiction qu'il y aura, et l'entente qu'il y aura dans le couple, l'entente au sein de la famille. Et d'une manière générale, si chacun l'applique, c'est l'entente au sein de l'âme, au sein de la communauté. Qu'on fasse tous le niya, inshallah, pour ce nouveau couple, et les couples qui vont s'unir, et ceux même, inshallah, ceux qui sont déjà mariés, d'essayer d'avancer le plus important. Ça, c'est une proposition de projet de vie. Il peut y avoir d'autres choses, d'autres a'mal qu'on peut mettre en pratique, mais faire en sorte que ne jamais stagner dans la religion, faire en sorte que régulièrement on essaie d'avancer vers Allah, de se rapprocher du paradis, de faire en sorte qu'Allah soit toujours satisfait, soit toujours content de nous. Et c'est ce que nous souhaitons à Mohammed et à Zeba ce soir, et à tous les couples qui sont déjà mariés, qu'Allah Azza wa Jal accorde beaucoup de baraka, beaucoup de bonheur, beaucoup de muhabba dans ce couple et dans tous les couples, et que Allah Azza wa Jal nous donne tawfiq de nous rapprocher de lui. Pourquoi on a insisté sur le fait de faire ce projet de vie? Parce que si tu as l'intention de le faire, innamal a'mal binniyat. Allah Azza wa Jal donne déjà des récompenses par rapport aux bonnes œuvres. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal dit, celui qui se rapproche de moi d'un pas, Allah se rapproche de lui de deux pas. Il n'y a que celui qui montre, d'un sens, Allah, qu'il veut faire de bonnes œuvres, qu'il veut se rapprocher de lui, qu'il veut avancer dans sa religion. Allah voit que la personne fait un effort et Allah va ouvrir les portes d'acceptation et Allah vous acceptera réellement, inshallah. Qu'Allah Azza wa Jal donne tawfiq de comprendre, nous tous de mettre en pratique et de propager ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.